c'est ludique, c'est l'heure de jouer.
À l'époque de la Bretagne médiévale, il y avait un roi. Et ce roi, c'est peut-être une légende, mais elle est connue de tous, celle du roi Arthur et de ses chevaliers de la Table Ronde. C'est un classique. Alors aujourd'hui, on ne va pas s'attarder sur la liaison entre Lancelot et la reine Guenièvre, hein, comme ça vous ne le saviez pas ? Eh bien, oups, j'ai peut-être fait une gaffe là. Mais on va parler de combat, et croyez-moi, le sang va couler. Âme sensible, éloignez-vous de votre radio. Remarque, vous n'avez pas les images, donc ça ne sert à rien de bouger. Chevalier, le combat commence. Préparez-vous, soyez vaillants, bienvenue au tournoi de Camelot. Camelot, hein, c'est juste dans la série télé ou au ciné, donc en Bretagne, hein, si vous ne voulez pas passer pour un con, vous dites Camelot, c'est un conseil. Dans le tournoi de Camelot, le nouveau jeu de Rigames créé par Ken Shamon, Karen Boginski et Jody Barvesi, vous allez vous affronter pour en fin de partie être le chevalier avec le moins de blessures. Le tournoi de Camelot est un jeu de plis. En début de partie, chacun va recevoir une carte héros avec un pouvoir associé à une carte légende qui ne pourra être activée qu'à partir d'un certain seuil de blessures. Alors ce sont les points de vie restants, hein, la carte héros à Guenièvre et associée à la carte légende Lancelot qui, elle, s'active quand vos points de vie ont atteint 150. Vous placez donc Guenièvre sur Lancelot, en tout bien tout honneur, bien sûr, hein, je parle des deux cartes. Chaque joueur reçoit donc deux autres cartes pour comptabiliser ses points de vie. Ça va de 400 quand vous êtes vaillant à 0 quand vous êtes mutilé. Mais avant, vous serez passé par un statut valide, puis affaibli. Tous les joueurs, ou plutôt tous les chevaliers, vont recevoir 12 cartes composées d'armes, les épées, les flèches, la sorcellerie, la trahison, numérotées de 1 à 15. Il y a aussi des cartes alchimie qui peuvent remplacer n'importe quelle série mais prendront la forme de l'arme posée en premier. Exemple, le premier joueur joue une épée, si j'en ai pas, eh bien je peux jouer une carte alchimie qui devient une épée. Mais c'est pas tout. Vous le savez, dans la légende du roi Arthur, il y a Merlin, l'enchanteur. Lui et ses apprentis sont des cartes de joker. Ils prennent l'arme et la valeur de votre choix. Mais alors comment on joue ? Eh bien, le premier joueur joue une carte flèche. Je dois jouer donc une carte flèche. Si j'en ai pas, eh bien je peux mettre Merlin ou un apprenti. Si ces cartes enchanteurs ne sont pas dans mon jeu, je peux mettre une carte alchimie. Si j'en ai pas, bah je peux mettre une autre carte, mais pas sur le pli. Vous abandonnez le combat et vous devez défausser votre carte, vous perdez immédiatement 5 points de vie. Et oui, c'est comme ça, on ne rigole pas. Enfin, parfois, hein, vaut mieux perdre 5 points de vie que faire le combat. Bah oui, parce que ceux encore présents dans le combat, eh bien, il va y arriver un moment qu'on appelle la feinte. Toutes les cartes de même valeur, y compris celle de Merlin, sont retournées face cachée. Parmi les cartes visibles, celui qui a mis la plus petite perd le combat. Sauf mention contraire, hein, de pouvoir bien sûr. Il va donc récupérer toutes les cartes sauf celle de la défausse. Un nouveau combat commence jusqu'à ce que vous n'ayez plus de cartes. Chaque joueur ou joueuse, un chevalier, a récupéré des cartes lors d'une défaite d'un combat. Il est temps donc maintenant de calculer vos blessures. Une carte arme, c'est 5 points de moins. Sauf si elle a du sang dessus. Bah là, elle a été empoisonnée, elle vous coûtera 10 blessures. Eh oui, direct. Une carte alchimie ou apprenti, c'est 5 points de moins aussi. En revanche, récupérer une carte Merlin fait très très mal, car c'est 25 points de vie en moins. La manche terminée, les points de vie comptabilisés, on enchaîne une nouvelle manche. Enfin, pas tout de suite. Il faut avant remettre les cartes divines. Et oui, chevalier malheureux, si vous avez le plus de blessures lors de cette manche, les dieux vous accorderont une faveur. Alors selon le numéro de la manche, 1, 2 ou 3, hein, les chevaliers optent un... Selon le numéro de la manche, 1, 2 ou 3 chevaliers obtiendront des faveurs. Ce sont des avantages pour la prochaine manche, hein, ça permet de se relever et de continuer ardemment le combat. En fin de manche, on vérifie si un joueur a ses points de vie à 0. Si c'est le cas, bah, la partie s'arrête et le chevalier avec le plus de points de vie remporte le tournoi de Camelot. Un jeu clairement de fourberie où vous ferez des cadeaux empoisonnés à vos adversaires. Tiens, cette fois-ci, toutes les cartes de trahison que tu auras récupérées seront multipliées par 2. Et oui, le pouvoir d'un chevalier est important, mais attention, il peut aussi se retourner contre vous. Alors lors de ma première partie, hein, j'avais comme héros la fée Morgane. Je me suis dit, une fée, c'est chouette, hein, qui va me permettre de modifier le jeu. En gros, chaque fois que je jouais une carte, hein, poison, ce n'était pas la carte la plus faible qui perdait le combat, mais la plus forte. Mais l'inconvénient, c'est que moi, en fin de manche, je devais doubler mes blessures. Je me suis pris 270 points de vie pour la première manche. Alors, j'ai pu activer rapidement ma carte légende, hein, le feu rouge, vu que j'avais dépassé le seuil des 200 points, et qui stoppait ce doublement des blessures. Mais croyez-moi, ça fait mal, et c'est compliqué, hein, de remonter la pente, car les autres chevaliers, en plus, bah, qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'acharnent contre vous jusqu'à votre mort. Oui, dans ce jeu, les autres veulent votre mort. Le tournoi de Camelot n'est pas qu'un simple jeu de plis. Les pouvoirs des héros et des autres changeront totalement votre façon de jouer. Allez, d'ici quelques instants, on va retrouver Vianney qui va parler d'un jeu un peu plus ancien. C'est Rétro Ludique qui arrive juste après Stromae avec l'Enfer sur Millennium.
Votre émission sur les jeux de société.
Et c'est le moment de retrouver Rétroludique avec Vianney. Bonjour Vianney.
Salut Mathieu, salut à toutes et tous.
Alors Vianney, aujourd'hui on va parler d'un jeu qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. D'ailleurs il y en a une deuxième version, mais là tu vas nous parler de la première.
Exactement, du coup un jeu qui est sorti, si ma mémoire est bonne, en septembre 2020, ouais. Si je dis pas de bêtises, puisqu'on est sur 2 ans en arrière, donc on est sur l'année de 2020. Et il s'agit de The Crew, Enquête de la 9e planète, de Thomas Singh.
Un jeu qui,
entre-temps, a notamment eu le prix de l'As d'Or
bah
expert.
Oui. Ouais.
Et si ma mémoire est bonne, le Kenner Spiel aussi. Il a fait le doublé.
Ta mémoire est bonne.
un jeu donc qui a été vraiment primé et je crois qu'il y a eu un engouement surréaliste, en tout cas sur le territoire français. L'histoire a dit que c'était très bonne vente, mais on y reviendra pour la fin.
Mais bien sûr.
De coup, c'est quoi pour ceux qui connaissent pas ?
Il y en a qui connaissent pas encore.
Il y a toujours des gens qui connaissent pas, c'est ça qui est chouette.
Bah oui.
The Crew, c'est la, en une phrase, c'est la revisite du tarot et de la belote, mais coopérative. L'idée, c'est que dans The Crew, on a revisité le jeu de pli, donc ce principe de jeu où, en règle générale, les joueurs vont tous jouer une carte. En règle générale, on ouvre à une couleur en commençant par une couleur. En règle générale, il faut suivre cette couleur. Et en règle générale, on peut couper ou quitter, etc. On va retrouver tous ces principes-là dans The Crew. La grosse subtilité du jeu étant le fait que c'est le premier jeu à le proposer. L'intégralité des joueurs vont jouer dans une seule et même équipe plutôt que d'être opposés les uns aux autres. Donc on va retrouver les sensations de la belote qu'on a sur ce côté équipe de « je vais jouer quelque chose, mon partenaire doit comprendre pourquoi je joue ça, j'essaye de lui faire comprendre mon jeu et ma main par le biais de cartes que je vais jouer ». Tout en bluffant les autres. Et là, du coup, on n'a pas ça. On n'a pas cette phase de bluff et ce souci de devoir cacher les informations.
Ouais.
Et du coup, ça va décupler la réflexion et les possibilités de jeu. Parce que du coup, on va juste essayer de trouver le meilleur coup pour faire comprendre à tout le monde ce qu'il faut qu'il joue, ce qu'il faudrait qu'il se passe. Et cette sensation-là, en fait, en général, quand on aime le jeu de pli, elle est grisante. Et sur The Crew, elle est vraiment à son paroxysme, quoi. Je pense que c'est ce qui a fait que le jeu a autant marché.
Ouais.
C'est parce que justement, ça s'inspire des jeux de pli traditionnels et donc beaucoup de gens avaient une facilité à l'appréhender, à l'approcher, à en comprendre les mécanismes et la réflexion. Et en même temps, parce qu'il proposait une expérience qui n'était pas dans le côté, tu sais, on a tous connu ça. Enfin, tu vas me dire si tu as eu ça dans ta famille, mais le côté où quand tu joues au tarot ou à la belote, tu te prends la tête avec les gens parce que ils jouent mal,
c'est
parce
ça.
Que machin a mal fait le truc.
Ou t'as pas d'atout.
Dans coup, tout. Ouais, c'est ça, c'est exactement. Eh, mais évidemment, pourquoi t'as joué ton roi en premier, nom de Dieu ? Donc, ça, je pense qu'on l'a tous connu pour ceux qui font du jeu de pli en famille. Et The Crew, alors, va avoir ça, mais dans un autre rapport à l'autre, en fait. On va avoir le côté, on va débriefer la partie, on va débriefer la manche en se disant, tiens, on aurait dû faire ça. Ah, qu'est-ce qu'on a mal joué ? Quand on perd, évidemment, quand on gagne, on est très content et on se félicite, hein, mais voilà. Et du coup, on va pas être sur le même rapport. Ça en fait un jeu, je trouve, un peu plus, sympathique, tout en étant quand même très challengeant. Et la petite subtilité sympathique de The Crew, c'est que le jeu va pas se contenter de proposer un mode de jeu où on va rejouer indéfiniment la même partie, mais d'amener les joueurs à faire face à un défi de plus en plus compliqué ouais. au travers de 50 missions différentes qui vont permettre de, à chaque fois, monter d'un cran dans la difficulté. Moi sur le The Crew 1, je suis toujours en plein milieu, je crois que je dois être au niveau 25 ou 30.
Je
stagne, on n'a pas un groupe extraordinairement doué à The Crew on est déjà sur le haut de nos capacités à rendu à ce niveau-là. Mais c'est vraiment brillant. Ça se joue entre 3 et 5 joueurs et cette première version, faut l'avouer, est extraordinaire à 4 et moyenne à 3.
À 3 ouais, c'est pas top.
Elle est très bien à 5, mais elle est excessivement difficile, donc on la recommande à 5 que pour les gens qui sont férus de challenge, de jeux difficiles. Quoi.
Et c'est pour ça qu'il y a eu aussi une deuxième version qui change un petit peu la donne.
Tout à fait. Bah, la deuxième version, du coup, est sortie, pour le coup, il y a 6 mois. Et la deuxième version, on en a déjà parlé ensemble,
ouais.
toi et moi, hein, mais la deuxième version va corriger, pour moi, tous les légers défauts de ce
jeu.
on parle de défaut, mais enfin voilà, c'est des,
pour un jeu quand même qui a eu l'as d'or et le spiel.
Ouais.
Ça va, il a
bah, en fait, c'est assez incroyable. C'est ce que j'avais dit la dernière fois, mais c'est The Crew 2, c'est juste ils ont taillé, affiné le diamant, quoi. C'était déjà extraordinaire, et le The Crew 2 vient corriger les quelques défauts. Ça n'en fait pas de The Crew 1 un très mauvais jeu. Au contraire, c'est un excellent jeu. Après, c'est vrai que si t'as le choix entre les deux, j'avoue, je prends le 2, les yeux fermés.
Eh ben oui.
Déjà parce qu'il est bien à 3 et à 5, que la variante à 2, elle marche, et donc tu peux jouer à 2, c'est très bien à 2. Voilà. Enfin, c'est... En tout cas, voilà, The Crew, c'était important de revenir dessus, je crois, parce que c'est vraiment un jeu qui a fait date. C'est rare, les jeux qui arrivent à innover et à percuter alors qu'ils s'inspirent de mécaniques qui ont l'air ancestrales.
Mais oui, mais bien sûr, c'est ça. Et les jeux de plis, il y en a énormément, et à chaque fois, ils rajoutent un petit truc. On se dit, ah bah oui, tiens, pourquoi pas.
Ouais, tout à fait. Après, tu vois, on voit beaucoup de jeux de plis depuis des années. Il y en a plein, des très très bien. Moi, je suis fan du genre, donc il y en a eu vraiment des géniaux dans les 20 dernières années. Niet, à une époque, Hugo, qui était très chouette. Là, qui sort bientôt chez Kif Edition, il va y avoir Vegan, qui est très sympathique dans un autre genre. Mais je veux dire, on n'en est pas du tout au même niveau. C'est-à-dire que The Crew a vraiment éclaté le plafond de verre des jeux de plis en proposant une expérience qui, en fait, est très différente de tous ces autres jeux. C'est à la fois la même chose, mais en même temps, c'est quelque chose de terriblement différent. La sensation coopérative va vraiment, moi je trouve, offrir une sensation de jeu qui ne ressemble pas d'habitude à ce qui se passe dans un jeu de plis. Tout en offrant le même plaisir de réflexion calculatoire.
C'est ça, et le fait que c'est sans communication aussi. Alors, on peut communiquer en posant des cartes avec des petits jetons et tout ça, mais on ne se parle pas, quoi.
Alors on se parle pas, on se parle pas. Ça c'est comme au tarot à la belote. Hein.
Ouais.
Il y a des moments quand tu joues avec des gens, tu fais
non, pas ça.
Voilà. Non, théoriquement, on est d'accord. On ne doit pas parler. C'est très difficile sur ce jeu de fermer sa mouille, surtout que c'est coopératif. Donc vite, les gens vont avoir tendance à trichouiller. Voilà. Ça fait partie de ces jeux-là où, de toute manière, après, moi c'est ce que je dis toujours, quand tu joues sur un jeu coopératif, on est là pour s'amuser, donc si les gens préfèrent s'amuser en trichouillant et que c'est comme ça qu'ils prennent leur pied, autant trichouiller. Et mais là, normalement, on est censé fermer sa mouille.
On va parler un peu vente, Vianney, du coup, parce que tu expliquais que tu conseillais finalement le 2.
Hein, depuis que le 2 est sorti, on conseille tout le temps le 2. C'est-à-dire les gens qui viennent chercher le 1, on leur dit non, prenez le 2.
Mais oui, voilà, c'est ça. Les gens, pour eux, ils veulent le 1 vu que c'est lui qui a eu l'as d'or.
En fait, viennent chercher pas le 1, les gens viennent chercher The Crew.
Ouais.
Mais ils savent pas qu'il y a un 2.
Okay.
Et donc, nous, notre travail, c'est de dire aux gens, il y en a 2.
Ouais.
Et à choisir, prenez le 2.
Prenez le 2. Et là, qu'est-ce qu'ils te disent alors, les gens?
Bon, 90% du temps, les gens nous font confiance chez nous, ils viennent là pour ça, ils viennent là pour nos conseils, donc ils nous font confiance. Après, il y a des fois toujours des irréductibles qui veulent le 1 parce que c'est le 1, ce que je comprends, hein, nous on n'est pas là pour dire non, ne prenez pas le 1, c'est un très bon jeu. C'est juste, on leur explique, il y a un deuxième opus qui est sorti, ils ont corrigé les rares défauts du 1, il y a le même prix, autant prendre le 2, quoi.
Est-ce qu'il y en a qui repartent avec les 2?
Non, pour l'instant, j'ai jamais vu repartir avec les deux. Par contre, des gens qui font l'acquisition des deux à plusieurs mois d'intervalle, carrément.
Ouais, ça c'est possible. Et puis après, y a un côté esthétique. Il y en a un qui se passe dans l'espace, l'autre qui se passe sous la mer. Bref,
vous de choisir. Ouais, après ça, bon, ça faut. Chez moi, j'ai vu. Je trouve ça très joli les deux, hein, mais bon, ça ne me fait ni chaud ni froid le thème.
Il y aurait eu un thème médiéval, ça aurait été pareil.
Il y aurait eu pas de thème et un jeu abstrait, ça m'aurait très très bien allé
aussi.
Non mais ouais, c'est pour moi c'est pas un jeu. Alors ils ont eu le mérite, parce que c'est vrai que j'en parle jamais quand je parle de ce jeu, ils ont eu le mérite d'essayer de faire au travers des 50 missions une petite histoire où on part en quête de la 9e planète pour le premier et l'autre on va dans les fonds sous-marins. Personnellement, j'ai essayé de la lire les 5, 6, 7 premières missions, et après on a arrêté, on trouvait ça totalement annexe et c'était pas du tout pour ça qu'on jouait et l'histoire nous paraissait pas... Alors, c'est pas pour être méchant, mais pas très intéressante, comme souvent dans le jeu de société. Hein. On n'est pas sur des niveaux de scénario extraordinaires dans un jeu de société en général. Et là, bon, on joue vraiment pas pour ça. Et je trouve que ce qu'on fait reste quand même tellement décalé de ce qui est raconté. Même s'il y a des vrais efforts, des fois, pour coller à certaines missions qui vont dire, là, on est en manque de carburant. Et du coup, dans le jeu, on va avoir, par exemple, moins de cartes pour symboliser ça, ou des choses comme ça. Ils ont fait un petit effort. Mais clairement, bon, on comprend pas pourquoi on est en train de jouer un jeu de plis pour essayer d'avancer dans l'espace, quoi.
En tout cas, s'il y a un jeu de plis à acheter en ce moment, c'est The Crew, tu conseilles?
Moi, c'est ce que je vais dire, ce que je dis tout le temps aux gens. J'explique aux gens que moi, le jeu de pli, j'adore ça, je suis né dedans et je trouve ça génial. C'est un style de jeu que j'aime beaucoup.
Ouais.
Pour moi, c'est le meilleur jeu de pli auquel j'ai joué de ma vie.
Ah oui.
Et pour moi, c'est inchallengeable. Je peux pas trouver un jeu de pli qui me donne autant de sensations agréables pour comparer à des jeux de pli.
Très bien. Eh ben, je pense qu'on peut conclure là-dessus, Vianney. Merci beaucoup, Vianney. On se retrouve bientôt. Alors je sais pas quand, peut-être mardi prochain, on verra. Je te redis.
Écoute, y a pas de problème, je serai là.
Moi je suis en vacances là, donc à partir de d'aujourd'hui, donc.
Eh bah, bonnes vacances, et pour tous ceux qui nous écoutent, bonnes vacances à eux aussi s'ils y sont.
Exactement. À très bientôt, Vianney.
Salut, belle journée.
Salut.